Attention, qui que vous soyez, attention. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
Pour l'amour du ciel, faites ce qu'il vous dit.
You talking to me? You talking to me?
Ça, c'est l'amour. Ça, c'est la haine. Tout ce qu'il voulait, c'était les réponses que nous cherchons tous.
On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher.
Bonjour, bienvenue. Ce que vous avez sous les yeux ou dans les oreilles, selon que vous nous regardez ou nous écoutez, ceci est la 16e et dernière émission de la saison. C'est donc non sans émotion que j'accueille sur ce plateau la crème de la crème du journalisme culturel belge francophone personnifié par... Allez, Olivier Van Barenberg, spécialiste de la BD, des mauvais genres littéraires, de Guy Verstraeten, roi de la nuit, nos sœurs, et type qui parle souvent de la télé dans les pages de Focus.
Tout à fait.
Et Kevin Dauchin. Kevin Dauchin, comment vous présentez, Kevin?
C'est dur, hein, c'est dur.
Votre œuvre parle pour vous. Je dirais que tu es petite main de notre site internet et aussi cœur de rocker. Voilà. Oui, parce que je l'ai dit un peu vite, mais ce qui nous lie en plus de notre amour immodéré de la culture, c'est qu'on bosse tous pour le magazine Focus Vif. Voilà. Alors, je vous rappelle brièvement le principe de Focus Store. Il s'agit d'évoquer les objets culturels qui font du bruit en ce moment, d'en discuter tous ensemble et de donner notre avis, spécialiste et profane, histoire de vous donner envie de vous faire le vôtre aussi, parce que nous pensons beaucoup à vous. Pour ce numéro collector à échanger avec vos copains, on a décidé de parler du film The Bling Ring, du nouvel album de Disclosure, de la série Orphan Black et du roman Oh My Dear. Eh oui, beaucoup d'anglais cette semaine. Clap dernière, c'est parti. The Bling Ring, c'est le nouveau film de Sofia Coppola qui poursuit son exploration de la vraie vie des pauvres gens riches. Son scénar, elle l'a tiré d'un papier de Vanity Fair, un article de 2010 qui s'intitulait « Les suspects portaient des loups-boutins » et qui parlait d'une série de cambriolages, de luxueuses villas de stars du showbiz, non pas par le crime organisé, mais par la jeunesse dorée locale. Je vous propose de nous immerger tout de suite dans un court extrait du film de Bling Ring.
My homie Mark.
Hey.
Hi, I'm Nikki. This is Sam.
Hi.
Oh my God, that's Paris Hilton. It's Kirsten Dunst. I just think we wanted to be a part of, like, the lifestyle. The lifestyle that everybody kind of wants.
Hey, I can be the answer. I'm ready to dance when the vampire...
Paris Hilton's hosting a party in Vegas tonight.
Where does she live? Do you think we could find a way in?
I don't know.
Come on, let's go to Paris's. I want to rob.
Un sujet absolument fascinant et probablement révélateur de quelque chose du monde moderne. Mais quel est ce quelque chose? Telle est la question. Et Sofia Coppola n'y répond pas du tout, en fait, dans ce film extrêmement répétitif, très long, malgré sa petite heure 30, pendant que je me suis énormément ennuyée. À peine moins pénible que le Spring Breakers d'Harmony Corrie. Enfin, voilà, comme j'ai le crachoir, je peux le dire, dont il n'a pas les qualités esthétiques en plus, et dont il faudra qu'on m'explique en quoi il se distingue des teen movies américains classiques. Où est la patte de son auteur? Où est Sofia Coppola? Olivier, tu vas peut-être pouvoir nous répondre.
En tout cas, elle est coincée à Hollywood parce que c'est fait déjà son deuxième film où elle tourne autour de ce sujet-là. Tu l'as dit, c'est les pauvres gens riches d'Hollywood dans les banlieues très cossues.
Ils sont bêtes, pauvres.
D'Hollywood, ils n'ont rien à faire. Ils tweetent, ils Facebook. Et que faire d'autre qu'aller voler dans les grandes maisons de Paris Hilton, de Rihanna, de toutes ces célébrités que la jeunesse américaine s'arrache. Et donc voilà, tu l'as dit, c'est tiré d'un article de Vanity Fair. On sent vaguement que le scénario effectivement tient sur 3 ou 4 pages et pas plus. Et donc voilà, ça suit ces 5 personnages, 4 filles, un garçon.
Oui, parce qu'on le présente ça souvent comme étant un gang de filles, mais il y a quand même
un garçon
qui est interprété par Israel Broussard.
Voilà, c'est le seul plus ou moins intéressant de la bande, on pourra peut-être en parler, je trouve, personnellement. Mais donc voilà, ça suit ces 4 ou 5 personnages très vides, pleins de vacuité, qui, parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire, vont cambrioler les maisons des stars et s'en félicitent sur Facebook, sur Twitter, dans les soirées où ils vont. Ils volent des loups-boutins, ils volent plein de marques que je n'ai pas retenues et qui ne m'intéressent pas. Et voilà, ça se passe pendant 1h20 comme ça. Et tu as cité Spring Breakers, ben voilà, on se retrouve exactement dans cette même culture du cinéma pop, très esthétisant, avec beaucoup de distance et finalement pas très intéressant. Ce qui m'a gêné dans ce film, c'est exactement ce qui m'a gêné dans Spring Breakers, c'est-à-dire qu'il y a sans doute ou une dénonciation ou en tout cas un focus qui est mis sur ce qui est vain dans une certaine jeunesse hollywoodienne aujourd'hui, et elle filme ce rien pendant une heure vingt.
Mais il y a quand même une petite ironie dans son point de vue, pour autant qu'elle en ait vraiment un. Notamment quand on voit Emma Watson, parce que c'est l'un des personnages principaux, qui s'habille pour son procès et qui met la jupe la plus courte possible, qui a de nouveau des loup-boutins aux pieds. Donc, on dit souvent que Sofia Coppola n'a aucun point de vue sur ce film. Moi, je trouve qu'elle se moque pas mal de ses personnages et qu'il y a quand même un petit côté moralisateur
c'est
là-dedans.
Absolument, parce que c'est des faits qui sont tirés de faits réels. C'est un film qui est tiré de faits réels.
Elle n'était pas dans la chambre.
Non, c'est pas ça. Mais je veux dire, elle montre que voilà, ces gamins sont complètement fascinés par le bling bling, par Paris Hilton, Lindsay Lohan et Enzo Voort. Et donc, il y a une cohérence à ce que finalement, en fait, tu te rends compte à un moment qu'ils sont complètement dans leur monde. Et quand il y a une des jeunes filles qui est interrogée par la police, ou par un journaliste plutôt, et il lui demande, voilà, vous étiez en cellule à côté de Lindsay Lohan, et ça tourne toujours autour de ça. Ou alors, à un moment, elle lui demande, ah, Lindsay Lohan sait que j'ai cambriolé sa maison, et comment elle a réagi. Donc ils sont complètement dans un monde, ils sont complètement dans un univers qui est un univers totalement artificiel et superficiel, et ça participe de ça, cette espèce de moment où elle s'habille effectivement pour son procès en étant
un bichon. Toi qui fréquentes des jeunes, toi qui es un peu l'origine belge.
Toi qui as les messages de Paris Hilton sur ton téléphone, on peut dire.
Est-ce que ces gens-là existent dans la vraie vie?
Sincèrement, je sais pas.
Est-ce que tu les as déjà vus? Est-ce que tu les as déjà vus voler? Est-ce que tu les as déjà vus?
Ici, c'est-à-dire que si en Belgique les gens devaient aller du côté de Bercelles pour voler la villa de d'Annie Cordy, tu vois, c'est pas exactement tout à fait, c'est pas tout à fait la même chose. Maintenant, c'est sûr que je pense, certainement là-bas, il doit y avoir des gamins qui sont fascinés par tout ça, par tout ce qu'ils voient dans les magazines, parce qu'à longueur de temps là-bas, surtout à Hollywood, certainement là-bas, t'as une culture comme ça où tous les magazines, tu t'imagines déjà le nombre de magazines People qu'on a ici, je n'ose même pas imaginer ce qui doit en être là-bas. Donc les gens doivent être complètement baignés là-dedans, doivent être complètement fascinés par ça. Et alors forcément, à un moment, ça déteint sur c'est pas tellement qu'ils ont rien d'autre à faire. Je pense qu'ils sont fascinés, puis ils trouvent ça fun d'aller là où ils peuvent transgresser un peu l'interdit, d'aller là où ils peuvent.
Tu sens pas que c'est fun. T'as l'impression que ces gens s'emmerdent. Même quand ils cambriolent, ils s'emmerdent. En gros, ils s'emmerdent. Tu sens qu'il y a une sorte de parabole sur la civilisation du paraître, pour dire des grands mots.
Et le fétichisme de la possession.
Magnifiquement dit, Myriam. Mais tu ne ressens pas ça dans le film. En gros, tu t'emmerdes autant qu'eux pendant qu'ils font leur cambriolage. Et tu ne comprends pas très bien ce qu'elle veut nous dire. Ces gens ne sont pas, je pense, représentatifs ni de tous les Américains, ni certainement pas de tous les Occidentaux. Et une des questions qu'on se pose avec ce film de Coppola, c'est qu'on commence à se demander si elle ne sait pas filmer autre chose que cette génération pop et ce côté un peu esthétisant et glamour. Quand elle filme Marie-Antoinette, c'était déjà une sorte de bonbon pop un peu particulier. Le film précédent, Somewhere, c'était déjà Hollywood. La question va commencer à se poser. Coppola ne sait pas filmer autre chose que ce qu'elle connaît et ce qu'elle fréquente. Et il y a ce côté fasciné par cette fascination du paraître, et encore une fois, c'est la même chose qu'on avait ressenti dans Spring Breakers dont on a parlé ici. On dirait qu'elle dénonce quelque chose pendant une heure et demie, mais qu'elle filme à profusion, elle ne fait que ça. Et il y a une sorte de distance où il n'y a pas de discours. À un moment, il n'y a pas de dénonciation vraiment. T'as envie de foutre des claques pendant tout le film à ces gamines qui vont cambrioler, qui ont rien à foutre, à leurs parents qui leur donnent cours chez eux, qui sont dans le New Age total. Et je ne suis pas sûr que ça parle beaucoup de notre époque ou de notre civilisation. Ça parle
parce que j'avais peur qu'on me dise, oh, mais c'est un merveilleux portrait de génération. Je ne veux pas vivre dans ce monde.
Je trouve que c'est surtout cinématographiquement, c'est assez faible, c'est assez pauvre. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des scènes de cambriolage qui longent le film comme ça, mais de bout en bout, et t'as l'impression qu'on passe d'un cambriolage à un autre, il ne s'y passe jamais rien.
Un cambriolage dans la même maison.
Et la réflexion que je me faisais, je me disais, c'est une chouette histoire, ça aurait fait un super documentaire, en fait, si on avait retrouvé les personnages principaux. Les protagonistes, on leur avait un petit peu demandé comment est-ce qu'ils se ressentent, comment est-ce qu'ils ressentaient, etc. Et là,
l'article originel que je n'ai pas trouvé traduit en français, à mon avis, doit être super intéressant.
C'est une histoire vraie, mais là, elle en a fait quelque chose de complètement creux, où on se dit, c'est vide, ok, ils sont fascinés, et voilà quoi, so what.
Moi, je trouve que justement ce côté documentaire quasiment dans le film, c'est ce qui peut rendre intéressant le propos, quoi. Parce que justement, c'est super super neutre. Maintenant, effectivement, à la fin du film, on a envie de pouvoir dire.
Mais non, parce que tu sens qu'elle aime bien. C'est du name dropping pendant une heure. C'est des citations de marques pendant une heure. Elle adore filmer les loup-boutins.
C'est vrai que c'est une forme de pornographie.
Mais complètement. Enfin, il y a un truc complètement décadent là-dedans où on ne s'intéresse qu'à ça, qu'aux fringues, qu'aux bijoux, qu'aux godasses. Et il n'y a pas de fond, quoi. Alors, soit tu dénonces le fait qu'il n'y a pas de fond, et elle ne prend jamais cette distance ou ce moment pour dire « ça suffit » ou un discours autour. Il y a une distance, on filme ce qui se passe et ça se finit là-dessus. Et pour revenir à ce que je disais sur « elle ne sait rien filmer d'autre », ça m'a beaucoup marqué où il y a une petite scène à la fin, puisqu'on ne spoil rien, l'histoire est connue, ils se font arrêter, certains finissent en tôle. Il y a 2 secondes dans un car où il y a des prisonniers et on sent bien que cette scène est la plus artificielle de l'ensemble du film, où même leur costard de prisonnier semble trop propre et pas réaliste. Et tu te rends compte qu'elle ne sait pas filmer autre chose que... Encore une fois, des jolies chaussures.
Ce qui est inquiétant, c'est surtout qu'elle n'arrive pas à pénétrer la psychologie de ses personnages. Il n'y a aucun moment où on reste attardé un petit peu sur les personnages pour se demander, tiens, ce garçon, par exemple, est-ce qu'il est homosexuel? Comment ça se fait qu'il n'a aucune...
Il y a eu quand même l'embryon d'une histoire sentimentale qui n'est pas développée.
Il dit, je l'aime comme ma sœur.
Et c'est justement ça le problème.
Il se retrouve au milieu de bombes atomiques, c'est le roi du pétrole parce qu'il doit avoir 16, 17, 18 ans peut-être, un truc comme ça. Il est en boîte, il claque des magnums de vodka, il est entouré de stars, il est entouré de nanas plus mignonnes les unes que les autres, ce qui est un peu le rêve, sincèrement,
des filles sont très jolies. Elles sont très, très jolies.
Et donc lui, on sait pas vraiment ce qu'il est. Les filles elles-mêmes, on s'attarde jamais sur elles, quoi. On ne sait pas si familialement, à part les deux sœurs qui sont élevées par une maman un peu fofolle et complètement dans son trip un peu new age, effectivement, qui est interprétée par Leslie Mann d'ailleurs. Je ne sais pas si tu vois c'est qui.
Assez flippante dans son.
Elle est flippante, mais elle est un peu crispante aussi, quoi. C'est-à-dire que quand elle a pas, c'est une actrice qui joue beaucoup dans les films de Judd Apatow dans ce groupe-là, et quand elle a pas de réplique drôle à dire, elle est un petit peu crispante parce qu'elle
mais
a une voix.
Mais elle a un visage photoshopé, quoi.
Enfin, ouais, c'est assez spécial, quoi. Mais voilà, moi, j'ai pas très très bien compris le point.
Bon, Kevin, est-ce que tu veux développer un point avant que nous concluions?
Mais juste, oui, j'avais été un peu fasciné par l'histoire. Effectivement, le film m'a pas complètement convaincu, mais ça m'a donné envie de creuser un peu plus. Et j'étais voir notamment des reportages qu'il y a eu sur les nanas à l'époque, et notamment les deux sœurs donc qui sont jouées par Emma Watson et je ne sais plus qui avaient à l'époque des faits une télé-réalité qui les suivait parce que la mère c'est une ex-playmate je crois, quelque chose comme ça, et donc il y a une télé-réalité qui les filmait pendant les faits. Mais sur la vie à côté, sauf qu'ils ont à un moment été obligés de filmer l'arrestation et compagnie. Et donc en fait, je trouve que c'est à la limite ce que j'ai découvert après sur l'histoire était plus intéressant que le film.
C'est ça que je te disais, c'est que l'aspect documentaire aurait peut-être permis de creuser un paquet de choses en plus plutôt que de filmer. Il y a au moins 40 minutes de film. Il y a 40 minutes de ce film qui sont découvertes de la chaussure ceci, du collier cela, de la robe une telle, du parfum ceci, de la petite boîte de nuit à l'intérieur de Paris Hilton, etc. Et qui sont complètement tu l'as vu une fois, tu l'as vu deux fois, après tu comprends pas comment ça se fait qu'elle le replace 4, 5, 6 fois. Il n'y a qu'un cambriolage qui, au niveau cinématographique, est plus ou moins intéressant, c'est celui qui est filmé complètement de l'extérieur. C'est la seule proposition un peu cinématographique qui a un peu d'intérêt. Pour le reste, c'est complètement creux. Voilà.
Dites les gars, c'est dingue, je pense qu'on est d'accord.
Il faut que ce soit la fin de la saison.
Olivier, avant qu'on donne une cotation, tu voulais encore tirer la couverture à toi, j'imagine.
Juste dire, en fait, ça m'a fait beaucoup penser pendant que je voyais le film à des films que Bertrand Tavernier avait fait, et c'était l'exact contre-exemple. Il avait fait des films avec une actrice belge dont le nom m'échappe dans l'instant.
Marie Gillin,
et qui était tout à fait intéressant sur la manière dont une jeune fille complètement décervelée se retrouve prise dans un engrenage criminel, et qui était très fort, où c'était vraiment très dur, et ça racontait quelque chose. Et ici, il n'y a jamais ce moment où on peut rentrer dans le film et dans la psychologie des personnages.
C'est ça avec Éléphant, moi, je trouve, de Gus Van Sant, qui parle aussi.
On va refermer la parenthèse ici.
On referme la parenthèse.
Oui, voilà. Alors, 4 sur 10 pour moi.
5, la moitié.
Non, pour continuer, je suis d'accord avec Myriam, je mets 4.
Oh. Ouais, ça va être ma pire cote depuis le début de Focus Store 4 aussi.
Eh ben, formidable. Alors, je vais vous dire que dans Focus, Louis Danvers met 3 étoiles sur 5 à ce film. Écrit que sur son sujet, Sofia Coppola jette un regard un peu distant, malgré la proximité de la caméra. Grand regard il y a. Ce cinéma-là, nous dit Louis, confinant à l'anonymat, vaut surtout par son sujet. Est-ce que ce dernier révèle des dérives d'une certaine société du spectacle? Amen. Côté musique, on se penche sur Settle, le premier album du duo électro-anglais Disclosure, Je l'ai bien disclosé.
Super.
Deux petits jeunes, 19 et 22 ans quand même, hein, qui est derrière un disque qui cartonne, qui détrône même Daft Punk dans les charts au Royaume-Uni, et qui est considéré par notre pape des pages musique, Laurent Houbrex, comme un album, je cite, « en tout point irrésistible ». Par ailleurs, Pitchfork, notre bible à tous ou presque, parle d'un des tout meilleurs premiers disques qu'on ait vu depuis très longtemps, ce qui n'est quand même pas rien comme compliment. Voici en tout cas un bout du morceau « When a fire starts to burn ». Écoutez ça. When a fire starts to burn, right, and it starts to spread, she gonna bring that attitude home. You don't wanna do nothing with their life. When a fire starts to burn, right, and it starts to spread, she gonna bring that attitude home. You don't wanna do nothing with their life. When a fire starts to burn, right, and it starts to spread, she gonna bring that attitude home. You don't wanna do nothing with their life. When a fire starts to burn, right, and it starts to spread, she gonna bring that attitude home. You don't wanna do nothing with their life. When a fire starts to when a fire starts to alors, il y a du beau monde sur ce disque. Il y a Jesse Ware, il y a Aluna George et Jamie Woon, notamment. Un casting bien, bien hype, des références house et dance bien enluminées. Il paraît aussi que le groupe cartonne sur scène, derrière ses petits laptops. Tout est donc réuni pour en faire une redoutable machine à danser, sauf pour moi. Seule note dissonante dans ce concert de louanges. Parce que pour moi, Disclosure a pondu un disque de Cheek Boom, qui me rappelle les heures les plus sombres de la discothèque La Doudingue à Braine-l'Alleud, que vous avez peut-être fréquenté. Par contre, Guy, alors, je t'ai vu partager un statut Facebook très spirituel récemment. Si ce track ne démonte pas les dance floors dans les mois à venir, je ne comprends plus rien à la musique. Point. Tu ris. Point. Je dis tu ris et pas tu ris parce que c'est en majuscule. Bah, qu'est-ce que tu peux dire de plus que ça?
Tu sais qu'assumer, c'est le début du bonheur. Donc j'assume totalement ce que j'ai dit. Et alors, tu sais que tu parles d'heures sombres, etc. La dernière personne qui m'a parlé de Cheek Boom, mm-hmm. c'était, je pense, la dernière personne qui a parlé de la house comme ça, c'était quoi? C'était en 97, 98.
Ah, je dis pas que la house est de la Cheek Boom, je dis que ça, ça correspond à tous les clichés qu'on se fait sur la Cheek Boom.
Cheek Boom, Cheek Boom, Cheek Boom.
Mais ça fait Cheek Boom.
Ça fait super longtemps que ça me parle comme ça. La house, ça fait super longtemps. Il faut te remettre à la page. Parce que la house, c'est pas que ça.
Mais
c'est aussi
ça fait le bruit Cheek Boom dans mon oreille.
D'accord, mais tu veux qu'on
écoute, comment tu veux que je dise ça?
En fait, non,
si c'est possible, je voudrais qu'on fasse un. C'est possible qu'on mette un espèce de paravent entre nous, cette personne et nous et les gens qui connaissent.
Bon, allez, vas-y.
Bref, mais oui, c'est une tuerie. Évidemment, c'est une tuerie. Oui. C'est d'une efficacité absolument redoutable. Tout à fait. C'est il y a des tubes. C'est un mélange de UK garage d'il y a 10 ans ou enfin il y a 15 ans plutôt et de house, de dance. C'est super efficace. Ça donne envie de moi. Quand j'ai écouté Laurent Houbrex en question, dont tu as parlé, m'a donné l'album et les deux trois premières notes, je me suis dit putain, ça tue quoi. Ça fait longtemps que j'avais plus entendu un truc qui m'avait comme ça entraîné. J'avais envie des.
Et tu danses comment là-dessus? Comme ça?
Et tu veux que je fasse
comme ça?
Tu veux un roulé-boulé? Tu veux quoi? Tu veux un roulé-boulé?
Non, parce que tout le monde dit que c'est vraiment
des
morceaux pour les pieds, mais je me demande comment on danse.
Mais toi, sur quoi tu danses dans ta vie?
Sur des trucs dansables.
Non, mais Myriam nous a quand même dit en commençant cette émission que tu avais 3 ans quand la house a commencé et qu'en 85 oui. des groupes comme Inner City, comme Kevin Saunders sont arrivés. Ça explique beaucoup de choses. Donc,
ça explique, moi j'avais le même âge, voilà. C'est pas pour autant que je suis complètement inculte en matière de house. Mais de toute façon,
faut savoir
que
Myriam, voilà, culture en matière de house, ça c'est vrai.
Tu aimes Justin Timberlake,
oui.
C'est tout. Voilà, donc on en reste là.
Et de funk.
Et un petit peu d'après. Non, mais c'est un disque qui donne envie de réécouter dans une voiture avec des basses à fond en ouvrant les fenêtres et en faisant le tour de son quartier.
C'est donc
voilà.
Ça.
C'est un disque bourrin, mais en même temps, c'est super bien foutu, quoi. Et voilà, je trouve ça top, sincèrement, c'est complètement irrésistible. Et voilà, qu'en dire de plus, si ce n'est que c'est un de mes coups de cœur vraiment du moment, je n'arrête pas de l'écouter cet album. C'est un petit peu plus, ça fait un petit moment maintenant que certains titres, comme White Noise avec Aluna George, justement, ça tourne en club depuis un moment, donc c'est des tubes dance floor aussi. Donc moi, j'ai pas grand chose à dire, si ce n'est que c'est, voilà, moi j'aime beaucoup et ça me transporte.
Bon, Olivier, je pense qu'on va ouvrir le grand livre d'histoire avec toi, non, explorer.
Effectivement, moi, je suis d'accord avec Guy. Bah, c'est vrai qu'il y a toujours ce problème. On en parlait avec Daft Punk, on est quand même tourné vers l'arrière. Il n'y a rien à faire, ça continue. Ici, c'est vraiment le son de 85-86 de la House de Chicago, qu'on appelle Deep House maintenant, mais c'est hyper efficace.
C'est quand même un peu plus rentre dedans, c'est un peu plus rentre dedans que la Deep.
Moins fort, mais voilà, je suis d'accord avec toi, je trouve que c'est hyper efficace. Il y a les morceaux qui sont irrésistibles. Le morceau qu'on a entendu en intro de la séquence, c'est vraiment, voilà, le gros morceau de ces derniers temps. C'est, voilà. Moi, je suis comme lui, j'ai accroché à mort. Je trouve que c'est un peu inégal, que c'est une succession de singles. Ouais. Que ça manque peut-être un peu d'emballage et de souffle sur l'ensemble de l'album, mais c'est un premier album. Ces gamins, ils ont 19 et 22 ans, tu l'as dit. Ça, c'est hallucinant. Je pense qu'il passe à Werther en juillet. Je pense que ça va être une tuerie totale sur scène. Donc, voilà. Je sais que je suis entouré par un rocker et...
Oui, d'attendre beaucoup de Kevin là-dessus.
Mais bon, voilà.
Ah, je vais donner un petit peu le contrepoint. Moi, je trouve qu'il y a 3-4 morceaux qui sont vraiment incroyables. Mais je trouve que l'album est vraiment trop long, par contre.
Il est un petit peu long.
Il y a quoi? Il y a 17 morceaux?
Il y a 14 morceaux.
Ouais. J'ai eu l'impression que ça n'en finissait pas. Je trouve que When a Fire Starts, That's the Start to Burn, que c'est incroyable. White Noise aussi. Mais même si... moi, je trouve que... Enfin, j'ai pas les références House de 85, mais je l'aurais bien vu sur une compile Megamix à côté de Gala et
tout
limité.
Absolument.
Mais je dis ça en positif, en fait, parce que c'est le genre de machin que j'écoutais gamin avant de découvrir
Rock'n'Roll.
Et c'est des trucs qui font plaisir à écouter, ça réveille des vieux machins. Et il y a pas de secret, c'est super efficace, quoi.
Ah ouais,
mais sur la longueur, je trouve qu'il y a
des morceaux, mais je trouve, moi, parce que je l'ai forcément écouté longtemps dans une voiture, souvent avec plein de gens différents.
Oui, il y a quand même
dans mon quartier, tu vois, j'étais là.
Écoute.
Non, moi, on va dire. Franchement,
tu n'es pas dans la réalité.
Tu prends malheureusement pas si bien à dire. Mais il y a quand même, à mon avis, il y a 7-8 vraiment très très bons morceaux. Et il y a un peu de remplissage, mais comme dans 85% des albums.
C'est vrai, et c'est dommage. Je lui mettrai donc, pour toutes ses qualités, 1 sur 10.
Ah, 1 sur 10.
Oui. Enfin, j'ai pas mis 0 parce qu'ils sont jeunes, donc voilà, ils ont droit à l'erreur.
Je vais pouvoir regarder, t'as essayé des textes chez toi pour voir à quoi ça ressemble.
Myriam, elle a voulu que ça doit
faire très peur. Le Hitbox, ouais, c'est ça.
C'est des mégabits, ça, c'est.
Oui, puis quelques compiles énergie. Kevin.
Enfin, 6 quand même, j'ai envie de mettre, oui. Ouais.
Oh, bon, 7 quand même, pour un premier album.
Hein. J'en mets 8.
Voilà. Eh ben voilà. Bon, eh ben, c'était 7, l'album de Disclosure. La série qui nous intéresse aujourd'hui, c'est une série canadienne, produite pour BBC America. Elle fait beaucoup parler d'elle en ce moment, notamment pour son actrice principale qui, d'après la critique, livre une performance tout à fait hallucinante. La série s'appelle Orphan Black et c'est un récit à tiroir, ou plutôt en poupée russe ou en table gigogne, où une jeune femme bourrée de problèmes qui assiste à un suicide dans une station de métro décide de prendre l'identité de la victime. Est-ce qu'on dit victime pour une suicide? De la morte.
Qui lui, on peut dire victime.
Qui lui ressemble trait pour trait et qui a un compte en banque bourré à craquer. Alors c'est le premier pied dans un engrenage infernal qui la mettra face à ses clones, dont certains sont gentils et d'autres méchants. Regardez, écoutez, Orphan Black, ça ressemble à ça.
Something really weird just happened at the train station.
What?
I saw a girl kill herself.
Ew.
Yeah, and she looked exactly like me.
I've got to go up to her flat.
She's got $75,000 in a savings account. I have an idea.
Sarah, any second, someone's going to ID the body and it's game over.
You're damn right.
You're damn right.
Beth, what's happened?
A lot.
Alors, la comédienne s'appelle Tatiana Maslany et malgré tout le bien qu'on en dit... et tous les prix qu'elle gagne. Je la trouve complètement à côté de son rôle. Et déjà, premièrement, je la trouve beaucoup trop jeune par rapport à ce rôle. Elle a, je pense, 25-26 ans dans la vie, alors qu'elle joue une femme qui a quand même solidement roulé sa bosse. Mais d'un autre côté, ça aurait pu être un plaisir coupable, je trouve, cette série, parce qu'il y a quand même des choses assez stimulantes dedans. Mais son intrigue est tellement tirée par les cheveux, tellement grotesque, que moi, je ne me suis pas du tout laissée embarquer. Et qu'après 5 épisodes, alors qu'il n'y en a que 10 dans cette première saison...
J'ai... La deuxième saison.
Oui, oui, j'ai abandonné. Est-ce que toi, tu as poussé les investigations plus loin?
Moi, j'étais jusqu'au bout. Et je vais prendre carrément le contrepoint de ce que tu viens de dire, parce que j'étais super fan, je suis vraiment plongé dedans. J'avais un peu peur par rapport à ton intro, je savais pas jusqu'où t'allais aller dans le spoil, parce que justement c'est une série qui marche très très fort au
retournement de situation.
C'est ça. Et à chaque nouvel épisode, tu découvres une couche à l'oignon en plus. Pour ne pas dire table gigogne. Oui. Voilà.
J'ai un copyright sur cette expression. Voilà. Oui, absolument. Oui.
Et justement, l'actrice, je la trouve moi vraiment bien. Effectivement, il y a certains rôles parce que donc elle joue plein de personnages.
Oui, et donc un personnage. Elle différencie ses personnages par ses cheveux, quoi.
C'est que ses cheveux.
Oui. Et non, un peu un accent, un peu, je suis Ivanka, prostitute.
Oui, mais il y en a une qui a un accent anglais hyper prononcé qu'elle fait super bien. T'en as deux américaines qui sont plus américaines. Et effectivement, la russe, l'allemande, qui sont un peu plus, peut-être caricaturales dans l'accent, mais je connais pas assez bien comment les Allemands parlent anglais pour me prononcer là-dessus. Mais je trouve qu'elle est super convaincante dans 4 rôles sur 5 au moins.
Il y en a 9 apparemment. 9,
oui, mais je crois que...
Jusqu'au 5e.
Il n'y en a pas 9.
Faut pas trop spoiler, parce que franchement...
si vous avez entendu ça, effacez cette blague, moi, revenez en arrière.
Voilà.
C'est trop tard,
maintenant. Et sinon, qu'est-ce que je voulais rajouter?
T'as kiffé, quoi.
Ouais, moi, j'ai bien kiffé. Je trouve que c'est super prenant. Bon, effectivement, le postulat de départ tient à pas grand-chose, parce que le fait que...
On croit à rien, mais bon, ça, c'est pas dérangeant dans certaines séries, mais ici, je trouve que c'est parfois même risible.
C'est ce que je disais tantôt, c'est que... quand on en parlait, c'est qu'en fait le problème, c'est que tu peux avoir un univers qui est de science-fiction, d'anticipation, mais il faut une cohérence, et je trouve que on y arrive en fait, curieusement, parce que moi ça a commencé à me passionner vraiment à partir de l'épisode 5 ou 6, ou avant je me disais mais qu'est-ce que c'est que ce truc.
Oui, c'est vrai qu'à partir du 5 il se passe quelque chose, il y a un twist.
Je te promets, le premier épisode je me suis dit qu'est-ce que c'est que cette merde, quoi, franchement. c'est vraiment nul. Il faut dire, parce que c'est la première scène en fait, donc on ne spoile pas grand chose, qu'elle découvre son sosie complet, pas complètement par hasard, dans une station de métro. Il s'avère que la fille en question saute sous un métro, elle prend son sac, elle s'intègre dans sa vie, et puis il s'avère que celle qui a sauté c'était une policière, etc. Donc tu te dis bon, voilà. Et en plus, c'est un peu gros. Les ficelles sont un peu grosses. Et moi, je trouvais aussi que le personnage de son frère adoptif, Félix, l'homosexuel Félix, je trouvais vraiment tellement caricatural, tellement... je trouvais vraiment lourdingue. Et puis, pour couronner le tout, quand elle commence à devenir la petite Allemande complètement névrosée, etc., et malade, là, je me dis, ça va pas du tout. Mais en fait... Plus l'intrigue avance, plus ça se détricote, et je trouve que plus ça prend de la consistance, et plus ça devient intéressant, vraiment. Et ça devient un plaisir coupable, contrairement à ce que tu n'as pas vécu, en fait, finalement. Non. Voilà.
J'étais plus loin que toi, parce que j'ai regardé jusqu'au 10e. J'en ai raté quelques-uns au milieu. Moi, ce qui me pose problème dans cette série, c'est le rythme. Basiquement, ça va trop vite. C'est un format de 40 minutes, là où d'habitude on a droit à 52 minutes.
Mais c'est vrai.
Il y a un gros trou en fait entre le 5.
C'est vrai que ça va vite, tout d'un coup, quand on passe du 4 au 9.
Non, mais sur chaque épisode.
J'ai l'impression qu'il manquait quelque chose.
Non, j'ai regardé 4 ou 5 épisodes, et chaque fois des épisodes, il y a un problème, c'est ramassé, quoi. Tu vois, là où d'habitude tu as 52 minutes et ça s'installe un peu, tu as des dialogues, il y a un rythme qui change. Ici, tu as les scènes qui se succèdent comme ça, très très vite.
Très nerveux.
Et ça t'empêche d'avoir de l'empathie pour les personnages, que ce soit le frère, les seconds rôles ou elle. Après, il y a des choses qui fonctionnent effectivement très bien. Sans rien spoiler, on a bien compris qu'à un moment, ils se retrouvent à plusieurs dans des pièces où c'est la même actrice qui fait plusieurs personnages, et tu oublies que c'est différentes actrices. Ça fonctionne d'avoir 4-5 personnes dans la pièce.
Je me dis toujours, tiens, comment elle fait? Est-ce que quelqu'un lui a donné la réplique? Est-ce que c'était un
écrit? Ça fonctionne. Le rythme...
Ça fonctionne. Mais ça perturbe. Hein. Moi, chaque fois que je les vois, je me dis, comment est-ce qu'il fait?
Moi, j'ai trouvé c'est vraiment un problème de rythme. Tu l'as dit, c'est une série canadienne, donc il y a des canaux habituels qu'on voit dans les séries américaines.
Ça se passe où d'ailleurs? Parce que j'ai pas réussi à
distinguer. C'est à Montréal, je pense.
C'est à Montréal,
je crois.
Voilà.
Ouais,
c'est pas connu, là. que...
Je ne suis jamais allé, mais je pense que c'est à Montréal. Oui.
Mais comme Kevin a longtemps habité là-bas, je pense que j'ai l'aurais remarqué. Oui, voilà. C'est ça.
Mais je pense que c'est à Montréal. Voilà. Et voilà, moi j'ai trouvé qu'il y a un problème de rythme et ça m'empêchait de rentrer dedans, de l'empathie pour les personnages. Et à la fin, ça m'emmerdait un peu. Je n'avais pas trop d'intérêt pour la chose. Effectivement, la fin ouvre vers d'autres choses et tu sais que la deuxième saison, il va y avoir des réponses, des choses intéressantes pour ceux qui ont bien aimé la première. Mais je pense que je serais tombé par hasard dessus le soir en zappant, j'aurais continué à zapper, je pense.
Oui, moi aussi. S'il faut attendre 6 épisodes avant que ça devienne un plaisir coupable, ouais, c'est peut-être un peu long, non ?
Mais justement, c'est le propre des intrigues vraiment à tiroir. En plus, il y en a un paquet de tiroirs là-dedans. Donc, c'est vrai qu'au départ, je me disais que c'était vraiment très très lourd, très très gros. Pas tellement lourd, mais gros dans les ficelles. Puis finalement, ça
devient... Elle est bien.
Bah, elle est bien. Ça dépend de ses personnages, effectivement. Je trouve qu'elle est assez bien dans son personnage principal, donc Sarah Manning, qui est l'héroïne de la série. Ensuite, après, quand elle développe et qu'elle décline ce personnage sur... j'aime bien Cosima, qui est la scientifique... la Rasta scientifique, qui est très chouette aussi.
Ouais, la mère poule est assez... tout à fait convaincante.
Ouais. Sincèrement, je trouve que c'est pas mal, quoi, au final. Ouais.
Ouais. Bon, ben, parce que moi j'avais peur que vous me frappiez violemment dans les coulisses de cette émission. J'avais très peur, j'étais vraiment très désolée de vous avoir imposé cette série. Ah ben finalement, c'est moi qui vais lui mettre 4 sur 10.
Ben voilà, ben moi je vais lui mettre 8.
Ah ben voilà. Ah.
Je serais moins sévère que toi, mais un petit 5.
Moi je vais mettre un gros 6.
Un gros 6, ah oui, c'est gros ça. On parlait de Orphan Black, une série de BBC America qui a donc été renouvelée pour une seconde saison.
Tout à fait.
Yahoo! Et enfin, le livre du jour s'appelle Oh My Dear. C'est lui. Il est signé TJ Middleton, comme Kate. Et publié au Cherche Midi, il nous est vendu comme un polar, comme un thriller, même si au bout du compte, c'est plutôt une comédie humaine cynique et grinçante. Comédie à l'anglaise, hein, comme son titre nous l'indique, avec un pitch que je trouvais tout à fait savoureux. Alors c'est un type, Al, chauffeur de taxi, la cinquantaine, marié depuis toujours ou presque, qui en a marre de sa femme, Audrey, qui décide de s'en débarrasser. Alors il profite d'une des promenades quotidiennes de sa femme pour la balancer dans le vide depuis le bord d'une falaise. Et puis il rentre tout simplement chez lui. Je vous lis un passage clé du livre et je ne spoil absolument rien parce qu'il est mis au tout début, page 11 d'ailleurs. Donc il rentre chez lui et c'était ma maison désormais. Banzai, vieux salopard! Et je me suis lancée à l'abordage du salon comme si c'était le Ponderosa, comme si je possédais la moitié du Texas, parce que c'était le sentiment que j'avais. J'avais la vie devant moi, tout m'appartenait. Audrey était devant le feu, en robe de chambre, les cheveux mouillés, tortillant ses orteils dans la chaleur, près d'elle deux petits verres de whisky et une bouilloire posée sur l'âtre, et une bouteille de champagne dépassant du seau à glace. « Ah, te voilà » a-t-elle dit, je me demandais où t'étais passé. Elle a tapoté le tapis à côté d'elle, enlève ses vêtements trempés, vient t'allonger. J'ai failli me chier dessus. Voilà. C'est donc plutôt rigolo, bien balancé, bien cash, assez décapant, mais malgré tout, j'ai eu beaucoup de mal à m'intéresser à cette histoire qui n'en est finalement pas vraiment une et dont le suspense est dégoupillé tout de suite. Un peu de mal donc avec ce « Oh my dear » et ce genre de bouquins en général qui sont pleins de promesses mais qui au final me volent des heures de ma vie qui ne reviendront jamais, pendant lesquelles je vieillis. Olivier, toi...
Tu vieillis pas.
Toi qui t'enquis des polars tout le temps, qui a l'habitude de ce genre de bouquins, est-ce que celui-ci t'a plu ?
Moyennement. Bah déjà, c'est pas un polar dans le sens où c'est pas sombre. Effectivement, il y a beaucoup d'humour dedans. C'est plutôt un thriller. Ça se veut un thriller. Et effectivement, c'est plus une comédie à l'anglaise où on est entre Nick Hornby et David Lodge pour reprendre des repères de littérature anglaise. Effectivement, j'ai un peu le même sentiment que toi. Le pitch est très bon. L'accroche est très chouette. Il croit tuer sa femme. Il tue quelqu'un et on ne sait pas qui il a tué. Et donc après, effectivement, il va y avoir plein de rebondissements où on va se rendre compte que son vieux dragon de femme, qui est vraiment un vieux dragon, est plus subtil qu'il n'y paraît. Que celui qui a tué, il y a peut-être d'autres meurtres qui ont eu. Enfin voilà, il se passe beaucoup de choses et c'est surtout la chronique d'une communauté, petite communauté de la côte d'Angleterre, avec la voisine qui surveille, avec le concurrent taxi, avec des amants cachés, avec des maîtresses, etc. Et finalement, moi, j'ai pas tellement accroché. J'étais comme toi, le pitch me plaisait bien, le début était très chouette, et puis je trouve que ça s'étiole un peu et finalement c'est un peu vain.
Oui.
Qu'il se passe pas grand chose dedans et que ça reste un thriller assez léger. On peut perdre du temps, mais si on est le long de sa piscine pendant ses vacances,
oui,
à la limite, ça peut passer. Je pense que si on prend quelques bouquins légers pour se vider l'esprit, ça passe bien. Je citais Nick Hornby et David Lodge. C'est moins drôle que Nick Hornby. C'est beaucoup moins littéraire que David Lodge. Donc.
Oui. tu te donnes tes noms parce qu'il faut bien comparer, mais...
Oui, voilà. Mais,
c'est quand même sans commune mesure.
Non, c'est pas du David Lodge, hein, soyons clairs. Mais par rapport à Nick Hornby, il y a eu un cynisme dedans. Il y a un cynisme anglais dans la littérature anglaise, on retrouve ça beaucoup dans les thrillers. Une sorte de... On est toujours entre l'humour noir et le drame, parce que quand même, sans rien dévoiler de l'histoire... Il y a une jeune fille qui a disparu, c'est peut-être sa fille, c'est peut-être sa fille qui l'a tuée, ce qui est quand même extrêmement dramatique. Mais même ces moments-là, on passe un peu au-dessus et on n'a pas beaucoup d'empathie pour le personnage.
D'autant qu'il n'est pas un personnage qui est sympathique à la base non plus. Donc,
Mais ça, à la limite, c'est un défi littéraire qui est amusant. Ouais. Il y a plein de bouquins avec des ordures et on s'attache aux ordures. Ici, il est entre deux. Il tue sa femme, mais on comprend presque qu'il a envie de tuer sa femme tellement c'est un dragon insupportable. Il y a le fait amusant qui parle beaucoup de ses carpes, où il a ses carpes dans son jardin, avec un flic qui vient enquêter, qui est aussi fan de lui, des carpes. Donc il passe des heures à parler de carpes, on apprend plein de choses sur les carpes.
Mais je trouve que les pièces du puzzle sont sympas, mais l'assemblage.
C'est un peu vain. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt sur la fin, on se désintéresse un peu de savoir qui fait quoi. On sent venir la chose assez vite, on se rend bien compte qu'il a tué quelqu'un et ce n'est pas celui qu'on va penser qu'il a tué qui va sortir. Donc voilà, c'est agréable à lire. J'ai pas eu l'impression de perdre quelques heures précieuses de ma vie, mais.
Mais tu ne vieillis pas, de toute façon, tu t'en fous. Toi.
Moi, c'est déjà fait, j'ai vieilli, donc maintenant c'est trop tard. Mais voilà, là-dessus, il y a un petit plaisir à lire. Je pense que c'est plutôt une littérature de vacances qu'un grand bouquin d'un nouvel auteur anglais. Je pense.
Donc merci Laurent Raphaël de nous avoir imposé ce livre.
On peut le dénoncer.
Auquel le chef a quand même mis 2 étoiles sur 5 dans les pages de Focus.
Bon, on mettra à peu près la même chose. C'est pas désagréable, mais c'est pas prépondérant non plus.
Voilà. Guy, qu'est-ce que tu peux nous en dire?
Moi, ce que je trouvais sympa dans le procédé, c'était plutôt le fait que l'assassin, en fait, enquêtait lui-même pour savoir qui l'avait tué. Donc, c'est lui qui mène l'enquête, quelque part. Et pour ça, parce qu'il se demande vraiment qui l'a balancé de la falaise.
Le pitch est excellent.
Je trouve ça assez drôle. Il y a quelques passages assez cinglants et assez d'humour noir qui sont vraiment drôles. Mais effectivement, ça, voilà, tu n'apprends pas grand-chose tu ne te poses pas beaucoup de questions sur la vie au sortir de ce bouquin, et tu n'apprends pas énormément de choses.
Et ta cote de plaisir par rapport à Paula Oloak-Sarac. Il reste un des grands moments d'incompréhension littéraire de l'année.
J'ai réussi à le terminer. Quand j'ai commencé à commencer à lire, je me suis dit voilà, j'aurais besoin de, à mon avis, une dizaine d'heures pour terminer le bouquin. Donc c'est que ça se lit facilement. Je trouve pas que ce soit mal écrit.
Non, ça
au contraire, ça se lit assez vite. C'est assez drôle. Et puis l'intrigue est pas super percutante, parce que quelque part effectivement on s'en fout. Mais il y a des choses vraiment qui marchent bien, comme le truc des poissons. Ça marche super bien, quoi.
Le flic qui adore les carpes.
Il arrive. On se demande toujours. Pourquoi il s'intéresse plus aux carpes qu'à l'enquête qu'il est en train de mener, alors que le flic lui-même est en rupture et en séparation, donc il est au bout du rouleau. Et il y a des choses qui fonctionnent, mais voilà, après c'est un truc de...
C'est un petit bouquin.
Au niveau du style, c'est pas non plus extraordinaire. Il y a des phrases amusantes comme tu les as citées, mais
moi j'en avais une et alors je la retrouve plus du tout. Alors soit on passe 10 heures ici maintenant.
Non, mais on te croit sur parole.
De relecture et on lit tout.
Non. Kevin, t'as un truc à ajouter?
Je veux bien justement qu'on fasse passer 10 heures, parce que j'ai pas aimé. C'est une question de temps, j'ai pas été jusqu'au bout, mais voilà, c'est très mal.
Mais tu accroches à ta lecture.
Mais oui, par contre, oui, j'étais dedans et je trouve qu'il y a un certain cynisme dans l'écriture et un sens de la formule. C'est quand même bourré de citations qu'il y a moyen de sortir qui sont cinglantes dans n'importe quel contexte, je crois.
Mais si t'aimes la littérature anglaise et les thrillers anglais, ils sont tous comme ça. Ils sont tous très cyniques, très bourrés d'humour noir.
L'encyclopédie Van Varenberg.
Non, pas du tout. Mais il y a quelques bouquins comme ça. On peut citer des polars irlandais, des thrillers. On a cité quelques auteurs. Il y a ce style comme ça. Il y a toujours une distance, un petit côté amusant, amusé de la chose, même dans des moments dramatiques. Ça ne porte pas beaucoup plus loin que d'autres thrillers qu'on a pu déjà lire.
Tant que j'étais sous la main, bientôt l'été, bientôt le départ en vacances, bientôt la plage. T'as un polar à nous conseiller pour les vacances?
Moi j'en ai un, mais je crois que j'en ai déjà parlé. C'est Ken Bruen, qui est un auteur irlandais. Et justement, pour parler d'écriture drôle et méchante, c'est parfait.
Ça s'appelle comment?
Donc Ken Bruen, il a toute une série en fait de polars avec une brigade récurrente, comme on peut trouver dans les romans scandinaves ou autres. Il suffit d'aller chercher son nom, Ken Bruen, B-R-U-E-N, il existe en poche, vous pouvez prendre n'importe lequel, et c'est magnifique, et ça fonctionne, et ça, c'est vraiment une bonne littérature de vacances.
Super. Bon, alors, une petite cotation, je vais lui mettre 6 sur 10, ou 5, Non, 6, ça mérite quand même un 6. Mais oui, oui, on est indulgent.
Voilà. Je vais pas mettre de cote.
Non,
je,
parce que
ce serait pas honnête.
C'est beau, c'est beau.
Ouais, c'est beau, quelle honnêteté. Ouais.
Franchement, c'est vraiment ça.
Je mettrai un petit 6 aussi, parce qu'on était en été, sinon je mettrais moins. Mais bon, voilà.
Oui, aussi, c'est bien. C'est parfait, ça. C'est trop parfait.
Ouais. Donc c'est Oh My Dear de T.J. Middleton. Je pense que c'est son premier roman.
Tout à fait.
Et c'est publié au Cherche Midi. Et comme à chaque fois, on fait le tour des choses qui nous ont plu dernièrement. Moi, c'est une BD. Bah oui. Le bleu est une couleur chaude qui n'est pas toute neuve, mais que j'ai découverte avec la Palme d'Or de Cannes, La vie d'Adèle, le film d'Abdelatif Kechiche.
C'est ça le titre, en fait. C'est super long, hein.
La Palme d'Or, la
Palme d'Or. Le titre de la BD, c'est Le bleu est une couleur chaude, voilà, et okay. Le titre du film, c'est La vie d'Adèle.
D'accord.
Voilà. Donc librement inspiré de la BD, tellement librement inspiré que Kechiche ne mentionne quasiment jamais qu'il s'est inspiré d'une BD et que l'auteur Julie Marot est absolument scandalisée et se fend de billets vitriolés sur tous les internets. Donc Julie Marot, jeune française au scénario et au dessin, qui raconte une histoire d'amour entre filles bouleversante. Avec Emma, qui est étudiante en art, qui a déjà quelques kilomètres au compteur, et qui a les cheveux bleus. Et Clémentine, qui est une petite ado qui se cherche, et ces deux-là vont se découvrir, se disputer, se délaisser, mais toujours beaucoup, beaucoup s'aimer. Ça parle de lesbienne, mais c'est pas un livre sur l'homosexualité, c'est un livre sur l'amour. Et j'ai trouvé qu'il sonnait très juste. Ouais, moi, ça m'a complètement retourné.
Guy, tu vas faire une petite...
Non, c'est beau.
Oui.
Quand c'est beau, c'est beau.
C'est vrai. Oui, oui, savoir, oui. Oui. D'ailleurs, j'ai pleuré en public à cause de cette BD. Ouais, je prenais le train. Oui, j'ai pris le train. J'ai fait Mons-Bruxelles. Ça a duré un peu longtemps. Donc, j'ai eu le temps de lire toute la BD sur le trajet. Et... les larmes qui coulaient. Donc, Le bleu est une couleur chaude qui a reçu le prix du public au festival d'Angoulême en 2011. Toi, tu l'as lu, t'es pas aussi emballé que moi parce que.
Je suis un peu gros bourrin. Moi, voilà. J'aime bien l'histoire de lesbienne plutôt dans les films porno. Voilà, je le dis. Donc, voilà, ça m'a laissé un peu froid. Je me sens pas très concerné. Mais c'est une bonne BD au niveau de la narration, du dessin.
Ouais, le dessin est magnifique.
La manière, c'est très beau. C'est très beau, ça.
Et puis, il y a des femmes nues quand même.
Oui, il y a des femmes
nues. De jolies femmes nues.
Mais bon, elles se touchent peu. Donc, dans la BD, en tout cas.
Avancé.
Faut dire les choses clairement. Ouais.
Voilà, Kevin, ton coup de cœur, je pense que tu ne sors pas de tes obsessions actuelles pour.
Tout à fait.
Queen of the Stone Age.
Voilà, je sors d'un concert qui était incroyable et je suis tombé ce matin sur un disque qui vient de sortir, qui est un disque de reprise de Queen of the Stone Age, d'un mec qui s'appelle Olivier Libaud, si je ne me trompe pas, qui est le mec qui était derrière le projet Nouvelle Vague. Donc, ce projet de reprise de New Wave en Bossa Nova. Le lien Nouvelle Vague, Bossa Nova, New Wave, ça veut tous les trois dire la même chose. C'était ça le truc. Et donc là, c'est le même mec qui a pris avec lui la chanteuse de Morshiba, celle de Shivari. Il y a Emiliana Torini, Alela Diane. Il y a une belle brochette de chouettes chanteuses folk. Voilà. Et donc c'est des reprises de Queens of the Stone Age
en folk.
Et oui, et c'est vraiment superbe. Enfin voilà, c'est et il y a pas énormément d'artifices, les chansons marchent à la base et c'est juste les dépouiller et mettre des belles voix dessus et c'est super beau. Et donc l'album s'appelle Uncovered Queens of the Stone Age de Olivier Libaud.
D'accord. Olivier.
Moi rapidement deux petites choses, une très vite parce qu'on avait déjà parlé. Le deuxième la semaine est sorti. Et il est aussi bien que le premier, donc on peut l'acheter les yeux fermés, on conseille. Donc le manga à la française par Vivès et compagnie, très bien, on peut foncer.
Pour les fans de... les anciens fans de Dragon Ball et puis tout.
Entre autres, voilà, et les fans de BD tout court parce que c'est vraiment très bon. Et alors, deuxième petite chose, en fait pendant quelques semaines à la librairie Bruxelles dans le centre-ville, il y a une exposition qui se fait autour du tempographe Sardon. Donc Sardon...
Mais qu'est-ce qu'un tempographe ?
Eh bien, comme son nom l'indique, c'est un monsieur qui venait de la bande dessinée et qui désormais fait de l'art contemporain avec des tampons encreurs. Donc tout est basé sur les tampons encreurs, c'est magnifique, c'est du punk bourré. Il a sorti un bouquin à l'association qui reprend une série de tampons qu'il avait fait de présentation. Il y a aussi du texte dedans et c'est vraiment génial. Il faut aller voir ça, le tampographe est un génie.
Et c'est Boulevard Anspach ou à Flagey ?
Boulevard Anspach. Pendant trois semaines, une mini-exposition où par exemple, il est très connu pour ses cachets d'insultes. Donc il en a sorti en allemand, en autrichien, ici il fait des tampons spéciaux d'insultes en bruxellois. Et donc, c'est voilà. C'est très drôle et c'est à voir. Et c'est très très chouette, je vous le conseille chaudement.
En allemand et en autrichien, ça doit être top ça.
Mais c'est beaucoup plus vulgaire dans les autres langues. En bruxellois, c'est très gentil, c'est ce qu'il veut lavabo, des choses comme ça.
Tischke.
Oui, voilà, c'est, ça reste mignon. Dans les autres langues, c'est plus sac à merde, des trucs comme ça, c'est plus rentre-dedans. Et donc, je conseille le bouquin qu'il a sorti à l'association, qui est un gros livre qui reprend vraiment. Il met des textes dedans qui reprennent 3 à 4 ans de création. Et c'est génial, faut acheter ça.
Et toi, Guy, tu nous parles de quoi?
Ouais, alors moi, j'ai un peu honte de ce dont je vais parler. Bon, la raison suivante, je dois m'expliquer vite fait, c'est parce que pour la télé, dans Focus, je me tape un paquet de séries. Et la dernière que j'ai dû regarder, c'était Game of Thrones, saison 3, et, qui était très sympa d'ailleurs. Voilà, mais voilà, on va pas en faire un fromage non plus.
Et
j'ai vu Dallas,
finir,
hein, j'ai vu Dallas 2012.
Ouais, ça, c'est plus dur, tout.
Dallas 2012, donc mon temps est quand même, voilà. Et donc, j'ai réfléchi à la dernière chose qui m'a vraiment frappé.
Enfin, pour dire que tu as un métier chronophage, c'est ça que tu veux.
Oui, je suis complètement chronophage, voilà. Effectivement. Eh ben, c'est Stromae. Stromae.
Ah oui. Ah oui. Alors on danse, c'est pas mal, hein.
Oui. Le Mia de Stromae. Non. Ce qui était. Je trouve que la chanson formidable, au-delà du clip et de tout le buzz que ça a pu faire, etc. Je trouve que la chanson formidable, c'est vraiment un des morceaux qui m'a le plus marqué récemment. Autant Papa Outé sans plus, même si le clip est très très bien. Je trouve que le clip est vraiment.
Et le titre de la chanson.
Le titre est sympa. Bien. La chanson me passe un peu moins, m'intéresse un peu moins, mais par contre, formidable. Voilà, après, il y a tout le côté Jacques Brel, tout ce qu'on peut en dire et tous les gens que ça a pu crisper. Moi, je connais des gens qui détestaient Jacques Brel et qui détestent encore plus Stromae, forcément.
Non, il y a des gens qui aiment Jacques Brel et qui sont un peu stressés par ce que Stromae en fait. Oui.
Voilà, par exemple. Donc, voilà, donc je propose d'ailleurs qu'on en reparle. J'arrête de parler tout seul de ça en vitesse. Non, mais je trouve que c'est. Que c'est quand même un jeune gars, c'est un jeune bruxellois, il a quand même du talent, il arrive à se faire connaître.
Mais vous avez un meilleur ami en commun, donc est-ce que tu as eu l'occasion d'écouter l'album qui sort en septembre?
Pas encore eu l'occasion d'écouter l'album, mais par contre, c'est vrai que je me rappelle que l'ami commun en question m'avait envoyé formidable, Stromae formidable YouTube par SMS, truc qui valait absolument rien, enfin je comprenais absolument ce qu'il voulait, et donc finalement j'ai découvert chez lui, et c'est vrai que la première fois où j'ai écouté ça quand c'était à Ce soir ou jamais chez Frédéric Tadei, ouais. j'ai eu les larmes aux yeux, je dois l'admettre. Voilà. Donc voilà, c'est pour mon coup de cœur.
Un petit cœur qui bat sous cette épaisse poitrine musculeuse.
On dirait pas comme ça. Mais voilà. Donc Paul, si tu nous entends.
Ah bah. Bravo. Coucou Paul. Bon ben bah, voilà, je vais vous rendre votre liberté, mais oui, je vous donne rendez-vous au mois de septembre. J'espère, pour la reprise de Focustor. Oui, d'ici là, n'hésitez pas à vous refaire tous nos anciens numéros. Il y en a 16 en audio sur iTunes et sur Podomatic. Il y en a une demi-douzaine, je pense, en vidéo, sur Vimeo, sur YouTube. Et on peut tous les retrouver, évidemment, sur notre page fan, facebook.com/Focustor. Lisez, évidemment, le Focus Vif, parce que lui, il ne s'arrête pas pendant l'été. Merci, merci à l'équipe. Vous allez beaucoup me manquer pendant 2 mois.
Nous, ça va aller, je pense.
Ah, parce que j'allais vous proposer d'aller boire des verres et tout. Non,
on va mettre un petit album de Disclosure et
on va garder ça professionnel.
D'accord. Bon, eh bien, je vous embrasse de loin.
Des bisous.
À bientôt. Tchuss.
Salut à tous.
Ciao.
Les copains.
Les copains.